8h, le journal Florence Paracuelos. Bonjour Florence.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Quand l'agriculture réchauffe la planète, les émissions de méthane, l'autre enjeu de la COP26, sommet capital pour notre avenir, elles ont plus que doublé en 250 ans. Détails et solutions dans un instant. À la une ce matin, il y a aussi cet essai clinique sauvage à l'IHU de Marseille, dirigé par le professeur Raoult. Il a provoqué des complications chez certains patients, c'est confirmé depuis hier par les hôpitaux de Marseille. Travailler plus pour avoir droit au chômage, la réforme entrera bien en vigueur le 1er décembre. Elisabeth Borne vient de le confirmer sur France Inter. Et puis soutien officiel de Marine Le Pen, mes amis personnels d'Éric Zemmour. L'invité du grand entretien devra bien trancher un jour, Jérôme.
Le maire d'hiver droite de Béziers, Robert Ménard, invité du grand entretien de la matinale à 8h20. Amis auditeurs, vous nous appelez dès maintenant pour poser vos questions pour l'interpeller. 01 45 24 7000.
Un juge seul contre l'oligarchie libanaise. Portrait de celui qui enquête sur l'explosion du port de Beyrouth dans ce journal. Nous serons aussi avec le dernier mineur de schiste de Belgique, tout seul dans les galeries avec son marteau et devant l'étoile de Goya au Palais des Beaux-Arts de Lille. Leur vibration est toujours aussi puissante.
France Inter.
Il n'y a pas que les centrales à charbon, l'industrie et les moteurs thermiques. Non, le réchauffement climatique est aussi affaire d'agriculture et on va en parler dans un instant. Après un détour par cette ferme unique au monde, nous sommes aux Pays-Bas, dans le port de Rotterdam, où l'on produit du lait et des yaourts sur la mer et en totale autosuffisance. Pas de quoi nourrir la planète, mais voilà un exemple vertueux, innovant et très étonnant. Reportage signé Marie-Pierre Véraud.
Sur le port de Rotterdam, entre les grues et les porte-conteneurs, une quarantaine de vaches ruminent paisiblement sur une immense barge posée sur l'eau.
Welcome at the floating farm, the first one in the world.
La première ferme flottante au monde. Peter van Wingerden, à l'origine de ce projet un peu fou, n'est pas peu fier. Ici, raconte-t-il, nous produisons une nourriture saine au cœur de la ville, au plus près des consommateurs, et selon les principes de l'économie circulaire. Le fumier est transformé en engrais, l'eau de pluie récupérée pour abreuver les vaches, des partenariats noués avec les restaurants pour leurs épluchures, les brasseurs fournissent des résidus de céréales, le stade et le golf de Rotterdam ainsi que les parcs livrent l'herbe coupée. La ville nourrit les vaches qui la nourrissent et tout est automatisé. Il y a le robot qui ramasse le fumier, le tapis roulant qui emmène la nourriture et la traction. Le robot pour la traite, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une ferme flottante est juste à côté des panneaux solaires flottants qui déjà fournissent plus de la moitié de l'électricité et bientôt un poulailler flottant et un potager sur l'eau. Loin d'être anecdotique, pour Peter, c'est la solution pour nourrir toujours davantage de monde quand les terres agricoles se font rares.
Marie-Pierre Véraud, et voilà qui nous amène aux chiffres du jour. On les décline chaque matin avant l'ouverture de la COP26 dimanche à Glasgow. Ce chiffre, c'est 262% l'augmentation des émissions de méthane dans le monde depuis la première révolution agricole au XVIIIe siècle. Le méthane, c'est l'autre grand gaz à effet de serre coupable avec le CO2 du réchauffement de la planète, Célia Quiré.
Ce sont surtout les industries fossiles qui sont responsables de cette augmentation impressionnante. Mais il y a également deux secteurs très émetteurs de méthane, l'agriculture et le traitement des déchets, analyse Marielle Saunois, enseignante-chercheuse à l'université de Versailles-Saint-Quentin et membre du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement.
Il y a du méthane qui va s'échapper dans l'atmosphère au moment des forages et dans les mines de charbon. Dans le domaine de l'agriculture, le méthane est émis essentiellement par la fermentation entérique des ruminants et par la riziculture, puisque ce sont des zones inondées propices à la production de méthane.
Parmi les leviers, sortir des industries fossiles ou au minimum réduire les fuites de méthane, limiter notre consommation de viande bovine et de produits laitiers, améliorer le tri et le traitement des déchets, notamment grâce au compost. En tout cas, ce sujet ne doit pas rester secondaire dans les négociations internationales.
Le méthane, c'est un puissant gaz à effet de serre. Sur un horizon de 100 ans, il est 28 fois plus, disons, réchauffant que le CO2. Si on ne fait aucun effort sur le méthane, alors les efforts qu'on aura fait sur le CO2 vont être limité par le fait qu'on ne se soit pas préoccupé du méthane.
Et justement, une vingtaine de pays, dont le Canada qui exporte beaucoup d'énergie fossile, la France, l'Allemagne ou le Japon, se sont engagés dans le cadre de la COP26 à réduire fortement ce gaz nocif pour le climat. Ils pourraient signer un accord à Glasgow avec l'Europe et les États-Unis pour diminuer leurs émissions de 30% d'ici 2030.
Célia qui réagit -3 de cette COP26.
France Inter, 8h05, deux navires de pêche anglais verbalisés par la gendarmerie maritime hier en baie de Seine.
Le zèle avant les sanctions. tensions dans le dossier empoisonné du Brexit entre la France et la Grande-Bretagne. Parce que Londres et Jersey ne délivrent pas assez de licences aux pêcheurs français, le gouvernement a dégainé ses mesures de rétorsion. Applicables mardi si rien ne bouge, les bateaux britanniques ne pourront plus débarquer en France pour y vendre leur pêche. Et les contrôles sanitaires et douaniers seront systématiques sur les marchandises britanniques. Mesure disproportionnée, a réagi le gouvernement de Boris Johnson. Convaincu par l'hydroxychloroquine, l'IHU de Marseille et son directeur Didier Raoult en ont largement prescrit aux malades du Covid alors que ses bienfaits n'ont jamais été prouvés. Est-ce dans le même esprit qu'ont eu lieu des essais contre la tuberculose dans le même institut marseillais? Vendredi dernier, Mediapart révélait une expérimentation sauvage ayant entraîné de graves complications chez certains patients. L'APHM, l'assistance publique hôpitaux de Marseille, a donc ouvert une enquête, Véronique Julia, qui confirme cet essai non autorisé et ses conséquences.
Selon le site Mediapart, rappelons-le, l'expérimentation de l'IHU sur la tuberculose aurait été mise en place depuis au moins 2017 et poursuivie jusqu'en mars 2021. Le traitement consistait à associer 4 antibiotiques, dont 2 n'étaient pas approuvés. L'enquête révèle que plusieurs patients, dont un mineur de 17 ans, auraient eu des complications médicales, l'un des antibiotiques pouvant entraîner d'importants problèmes rénaux. Dès vendredi, la PHM dit avoir lancé une enquête interne. Les investigations ont été menées dès le week-end dernier et les premiers éléments de l'enquête confirment qu'un protocole de recherche avait bien été déposé en 2019 sur cette association d'antibiotiques. Devant les réserves de l'Agence du médicament, les hôpitaux de Marseille ont retiré la promotion de l'essai, mais l'IHU a malgré cela continué à délivrer la combinaison de médicaments. La PHM confirme que plusieurs patients atteints de tuberculose ont été traités de cette façon et que certains ont eu des complications rénales, dont un au moins a nécessité une intervention chirurgicale. Évoquer des sanctions est un peu prématuré, explique les hôpitaux de Marseille, mais nous continuons, disent-ils, d'investiguer en lien avec l'Agence du médicament.
Et ces révélations sont une tempête dans un verre d'eau. Voilà la réaction du professeur Raoult. Et une molécule qui, elle non plus, n'a pas reçu d'autorisation pour l'instant, mais Merck, le laboratoire qui la fabrique, promet de la rendre accessible à tout le monde. Le molnupiravir limiterait les risques de développer un Covid sévère quand on est contaminé. Merck en proposera des versions génériques pour les pays pauvres. La France en a déjà commandé 50 000 doses. Enfin, l'OMS surveille de près un variant du variant Delta, ce mutant dont la transmission augmente depuis cet été. Il représente déjà 6% des contaminations au Royaume-Uni, mais on ignore pour l'instant s'il est plus contagieux que sa souche d'origine.
200 000 chômeurs de moins sur un trimestre.
La baisse est spectaculaire. Entre juillet et septembre, le chômage a baissé de 10% sur un an et toutes les catégories d'âge en ont profité. De quoi conforter le gouvernement dans sa volonté de réformer l'assurance chômage. Les conditions sont remplies, vient d'annoncer la ministre du Travail sur France Inter. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Le dernier volet de la réforme sur l'indemnisation entrera donc en vigueur le 1er décembre.
Oui, d'une part, la dégressivité des allocations pour les chômeurs les mieux indemnisés, au-dessus de 4500 euros bruts par mois. Leur allocation diminuera au bout du 6e mois au lieu du 8e actuellement. Et puis le durcissement des conditions d'accès à l'indemnisation. Il faudra désormais avoir travaillé 6 mois au lieu de 4 au cours des 30 derniers mois pour pouvoir bénéficier de l'assurance chômage. Ces deux mesures s'ajoutent à celles déjà entrées en vigueur, le bonus-malus sur les contrat court pour les entreprises au 1er juillet, puis au 1er octobre, un nouveau mode de calcul à la baisse du montant des allocations. Mode de calcul contesté par les syndicats, mais validé depuis par le Conseil d'État au nom du retour justement à meilleure fortune économique. Le gouvernement avait posé deux conditions. Une baisse de 130 000 du nombre de chômeurs depuis fin mars. Nous sommes à près de 240 000. Un nombre de déclarations préalables à l'embauche de 2 700 000. On est à plus de 3 millions. Reste que les syndicats dénoncent toujours des mesures d'économie faite sur le dos des chômeurs. Un recours sur le fond de la réforme doit encore être examiné dans les prochaines semaines.
Fabien Cazot, et avec la reprise, certains patrons se demandent comment garder leurs salariés. C'est la question dans les secteurs qui manquent de main d'œuvre, mais c'est aussi un enjeu pour l'État et ses fonctionnaires dans les zones difficiles. Voilà pourquoi il y a un an, le gouvernement lançait une prime de fidélisation en Seine-Saint-Denis. 10 000 euros pour ceux qui conservent leur poste pendant 5 ans dans le territoire le plus pauvre de France métropolitaine. Alors un an plus tard, cette prime a-t-elle commencé à faire effet? Réponse avec Mathilde Dehimi.
C'est un effort sans miracle pour les syndicats. Il est trop tôt, disent-ils, pour tirer un bilan. La prime sera touchée au bout de 5 ans, dégressive avant. Au-delà de l'argent, certains s'en servent pour changer de poste sans file d'attente, note Jérôme Jiménez, délégué UNSA Police.
10 000 euros, c'est pas rien aujourd'hui pour un policier qui gagne 2 000 euros par mois. Moi, j'ai des copains qui ont tout de suite pris le wagon en marche puisque c'était hyper intéressant pour eux, accélérateur de carrière.
À terme, il espère voir d'autres profils que ceux de jeunes peu expérimentés. La prime doit fidéliser. Les demandes de mutation ont bien baissé chez les enseignants, mais augmenté chez les greffiers. Cyril Papon, secrétaire CGT greffier au tribunal de Bobigny.
Cette indemnité, elle ne changera pas les conditions de travail. 10 000 euros en 5 ans, ça fait environ 166 euros bruts sur un plan mensuel et avec une charge de travail qui ne cesse d'augmenter.
Car tous déplorent le manque de moyens. Le vrai problème de fond au-delà de la prime, rappelle Stéphane Troussel, président socialiste du département.
C'était une bonne chose pour renforcer l'attractivité de la Seine-Saint-Denis et surtout pour inciter les fonctionnaires d'État à rester. Mais à l'évidence, ça ne peut pas régler à elle seule des problèmes plus structurels.
Il demande l'extension de ce bonus aux fonctionnaires de santé. Selon le gouvernement, 40 000 emplois de la fonction publique sont concernés par cette prime.
Mathilde Dehimy a un droit au compte bancaire individuel. On le pensait acquis, mais parfois les femmes n'y ont pas droit. Le Sénat a donc adopté hier, après l'Assemblée, un texte sur l'autonomie. Salaires et allocations ne pourront plus être versés sur le compte de leur conjoint et les banques ne pourront plus refuser une ouverture de compte personnel à une femme. Qui est responsable de l'explosion du port de Beyrouth en 2020? L'enquête difficile se poursuit au Liban, entravée par une situation politique très tendue. Ainsi, l'ancien Premier ministre Hassan Diab, qui devait comparaître aujourd'hui, refuse la convocation du juge qui instruit l'affaire. Tarek Bitar, un juge qui enquête contre vents et marées. Portrait signé Aurélien Colli à Beyrouth.
C'est un peu David contre Goliath, un juge réputé pour son impartialité et sa rigueur face à une oligarchie libanaise habituelle à l'impunité. Jusqu'à présent, Tarek Bitar, 47 ans, résiste, protégé 24 heures sur 24. Il poursuit son enquête, hermétique aux pressions, aux intimidations. Pas une faute de procédure, malgré tous les recours tentés contre lui pour gagner du temps. Pas un mot à la presse, parce que la notoriété du justicier ne fait pas partie de sa personnalité. Mais sa détermination agace, irrite, inquiète même les deux grands partis chiites, le mouvement Amal et le Hezbollah pro-iranien, parce qu'il persiste à vouloir entendre d'anciens ministres issus de leur rang ou proches d'eux. Tarek Bitar est devenu la bête noire de certains Libanais. Son enquête serait politisée, ciblée, son agenda dicté par l'étranger, Amérique en tête, menacé d'être déboulonné, discrédité via les réseaux sociaux. Lui reste imperturbable, même quand le bruit des balles résonne dans Beyrouth, comme à la mi-octobre, quand une manifestation réclamant son limogeage a dégénéré en affrontement armé, pour rappeler que l'ordre milicien n'est jamais loin, qu'il est devenu une menace pour la paix civile libanaise, pour le gouvernement aussi, que les ministres chiites veulent quitter s'il n'est pas écarté. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
La crise des semi-conducteurs, on mesure chaque jour son ampleur dans l'industrie automobile, à part chez Tesla et après Renault. C'est Stellantis ce matin, ex-PSA, qui annonce que cette crise va priver le constructeur de 600 000 véhicules rien qu'au troisième trimestre. À la mine maintenant, et de son plein gré, nous ne sommes pas dans Germinal, le roman de Zola, dont France 2 a fait une série diffusée depuis hier soir, mais dans les galeries de schiste des Ardennes belges, cette roche qui permet de fabriquer de l'ardoise, avec le tout dernier mineur de schiste de Belgique. À 62 ans, cet ancien maçon a repris le marteau 7 jours sur 7 et 8 heures par jour. Rencontre souterraine, signée Julien Morcelli.
En bottes, pantalons de chantier et polaire tachés de boue,
ça glisse comme du savon, ça.
Vincent parcourt les 200 mètres de galeries humides, éclairées par des projecteurs. À ses pieds, Caillou ouvre la voie.
Caillou, c'est mon petit chien, mais il porte pas le casque, lui. Moi non plus.
En fait, il a une méthode bien à lui pour éviter les éboulements.
Quand vous voyez la flaque d'eau là-bas, si la goutte d'eau ne tombe pas là demain, c'est qu'il y a un mouvement dans la plaque au-dessus. À Noël, par exemple, il y a 400 tonnes qui sont tombées là où je travaillais. Si c'était pas Noël, c'était sur moi.
Vincent sculpte ses pierres avec un marteau. Un travail physique, son corps commence à le sentir.
Là, 10 ans d'ici, je faisais 14 heures sur le chantier, sans problème. Et maintenant, quand j'ai fait ma hauteur, j'arrête.
D'autant qu'il doit répondre à une quarantaine de commandes par an, comme cet évier entièrement fait d'ardoise, réalisé pour Marie.
C'est vraiment beau. Hein. Et il est unique, il n'y en aura pas un deuxième comme ça. C'est quand même bête d'aller mettre de la pierre de Bourgogne, alors que nous avons une très belle pierre dans la région.
Pour beaucoup d'habitants, comme Marianne, qui tient la boulangerie du village, Vincent rend hommage à la grande époque de l'industrie ardoisière qui a fait la fierté des Ardennes belges au 19e siècle.
Et ici, toute la maison était faite en pierre de schiste, on faisait les toits en ardoise. Moi, je le vois descendre à 6 euros au soir dans sa petite camionnette blanche. Eh bien, on le reconnaît parce qu'il a été travaillé, il sort, il est tout noir. Faut oser le faire.
Vincent est désormais le dernier mineur de schiste en Belgique et les Ardennois le savent, lorsqu'il raccrochera, c'est une partie de leur patrimoine qui s'en ira avec lui.
Reportage de Julien Morcelli. Lui n'a pas peint de mineur, mais un maçon ivre ou un travailleur aveugle. Infime partie de l'œuvre de Goya, peintre espagnol à cheval entre le 18e et le 19e siècle. Ses toiles et ses dessins ont inspiré les avant-gardes du 20e jusqu'au cinéma. Et c'est une expérience Goya que propose le Palais des Beaux-Arts de Lille, avec des vidéos et des ambiances sonores pour accompagner les toiles, dont deux chefs-d'œuvre qui disent tout, Isabelle Pasquier, de son immense influence.
Les jeunes et les vieilles, deux toiles iconiques de Goya au cœur de cette audacieuse exposition. Vision sidérante des ravages du temps et de la prétention humaine. Grâce aux images numériques, on perçoit la fulgurance de la touche de Goya, déjà expressionniste. L'exposition montre qu'en représentant sans filtre la cruauté, Goya a toujours été une source d'inspiration. Régis Cotentin, commissaire de l'exposition.
Au XXe siècle, avec les deux guerres mondiales, on en vient à se ressourcer chez Goya pour pouvoir représenter l'irreprésentable de ces deux conflits. Ça va être Picasso, André Malraux, Michel Foucault et tous les artistes contemporains vont continuer aussi à puiser dans son œuvre pour parler de tout ce qui constitue aussi la barbarie des temps contemporains.
Et Goya a aussi inspiré le cinéma.
Comme c'est quelqu'un qui a su mêler à la fois le réalisme et le fantastique, c'est vraiment une mine d'or pour les cinéastes. Luis Buñuel, Orson Welles, Fellini évidemment avec le Casanova, mais maintenant avec Guillermo del Toro, Matteo Garrone, mais aussi Sergio Leone qui s'en est véritablement inspiré pour « Il était une fois dans l'Ouest » et « Il était une fois dans la Révolution ». Il en vient à reconstituer certaines scènes à partir des tableaux et des gravures de Goya.
Après son enterrement, le corps de Goya a été décapité. Aujourd'hui, on ignore encore où se trouve son crâne. La vie de Goya continue de dépasser son œuvre sur la folie humaine.
Voilà, expérience Goya à voir au Palais des Beaux-Arts de Lille jusqu'au 14 février.
Merci à vous Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Comme hier, Marie-Pierre, des brouillards ce matin.
Eh oui, Jérôme, avec toujours ces conditions anticycloniques. Les brouillards sont nombreux du bassin rennais au Val-de-Loire, à la Champagne, aux Ardennes, à l'Alsace, en descendant jusqu'au Val-de-Saône et au Lyonnais. Ailleurs, vous allez voir le soleil se lever, excepté sur la Bretagne à cause des nuages qui annoncent l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Puis dans le golfe du Lion aussi, on a ce vent d'autant qui se renforce et qui pousse des entrées maritimes, donnant quelques gouttes même. Et ça sent nuage en Corse. Alors, les températures sont un peu fraîches ce matin, moins 1 à Aubusson, pas plus de 2 degrés à Strasbourg, Lyon ou Auch. Vous avez 5 à Rennes, mais 14 à Belle-Île, 8 à Paris et 10 à Perpignan.
Et beau temps sur les trois quarts du pays cet après-midi.
Oui, profitons avant un week-end assez tristoun de ce soleil d'automne, excepté sur la pointe bretonne, avec déjà donc le début de la perturbation qui amène des pluies et le vent de sud qui se renforcera sur l'ouest, ainsi que le vent d'automne sur les Pyrénées, sans oublier les pluies sur le golfe du Lion qui vont gagner les Cévennes. Et il fera plus doux qu'hier, donc on attend seulement 14 à Strasbourg, mais c'est à cause des grisailles tenaces. Mais il fera 17 à Nancy, à Lille, 19 à Paris, comme à Cabourg ou à Montpellier, vous aurez 20 à Paimpol ou Clermont-Ferrand, 21 à Ajaccio, 22 à Bordeaux et Marseille, et ça montera jusqu'à 23 au Pays Basque.
Merci Marie-Pierre, à tout à l'heure. 8h18, Géopolitique.